Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Et comme on ne peut pas voyager, comme on ne peut pas bouger, je vais vous proposer pour commencer cette journée un voyage dans l'espace et le temps. Un voyage pour aller retrouver la Casbah d'Alger en 1930, c'est-à-dire la Casbah de Pépé le Moko et des artistes maudits, des petites frappes et des grands révolutionnaires. La Casbah qui a inspiré Albert Camus, le poète Jean Sénac, mais aussi des réalisateurs comme Luchino Visconti et Gillo Pantécorvo. La Casbah avec ses ruelles et ses venelles atypiques qui a inspiré aussi des architectes comme Le Corbusier ou aussi Claro qui a construit une maison dans ce quartier d'Alger, la maison indigène. Et c'est son petit-fils qui raconte cette histoire, c'est-à-dire l'histoire de ce quartier, l'histoire de cette bâtisse, l'histoire de cette époque, dans un texte édité par Actes Sud. La maison indigène de Claro est un texte que je vous recommande vivement. Il est sorti le printemps dernier, c'est-à-dire en plein confinement. C'est une occasion aujourd'hui de recevoir Claro, puisqu'on n'avait pas pu le recevoir à cette époque-là. Et il est avec nous ce matin pour le réveil culturel. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture. Bonjour Claro.
Bonjour.
Votre grand-père, Léon Claro, était un architecte. Il était aussi, en 1930, un Algérien, en quelque sorte, puisqu'il était là-bas. Votre histoire familiale, même si vous êtes né en France, votre histoire familiale va traverser l'histoire de l'Algérie et de la colonisation française de l'Algérie.
Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce passé qui n'est pas le mien, mais qui est un petit peu le mien, c'était d'apprendre que quand on disait un Algérien, c'était un Français. Enfin, ça pouvait être éventuellement un Espagnol, mais voilà, ça désignait les Français, que pour les autres, on disait effectivement parfois les Arabes et parfois indigènes, mais qu'il y avait une évidence comme ça de cette présence française, voilà, depuis quand même 1830. Et c'est très étonnant de voir de l'intérieur comment les gens conçoivent ça. J'ai retrouvé des lettres de mon grand-père où il explique en fait pour lui l'Algérie, il y avait des Turcs au 19e et puis on est venu les chasser. Il y avait aussi des Arabes, mais les Arabes, c'était pas leur pays. Il en déduisait que les Arabes venaient d'Arabie. Voilà. Donc finalement, il y avait de la place pour que la France vienne, etc., et s'installe. Et voilà. Et c'est tout le problème de cette présence française. Enfin, c'est toute une histoire où tous les termes ont l'air d'être entourés de espèces de guillemets mutiques effrayants.
Donc, note que vous n'avez pas employé encore l'expression pied noir.
Pas encore pied noir. Et non, bah, on peut parler aussi de la notion d'étranger par rapport à Camus. Il y a des choses. Tout le monde se repousse la notion d'étranger vers l'autre, cette histoire.
C'est une maison mauresque, donc, qui a été construite en haut de la Casbah d'Alger pour célébrer le centenaire. Et à partir de cet élément biographique de votre grand-père architecte, Léon Claro, vous allez écrire un livre qui ressemble à la Casbah, puisqu'il y a plusieurs passages, des ruelles, il y a aussi des impasses. On se perd avec plaisir, on rencontre des gens extraordinaires, et puis vous nous promettez un livre sur votre grand-père, et finalement c'est un livre sur votre père, sur la quête du père. Mais partons de cette maison, parce que dans cette maison-là, il va y avoir quelques célébrités. Albert Camus va passer là, Albert Camus va écrire un texte sur cette maison-là. Vous convoquez aussi Jean Sénac, on va en parler, qui était l'ami de votre père. On l'apprend en lisant La maison indigène, Claro, et aussi tous les architectes, les peintres, les orientalistes, le passage du Corbusier à Alger, puisque lui aussi est passé par la Casbah, il est même mort à la Casbah. Combien de gens sont morts à la Casbah?
Pas mal de souvenirs en tout cas, ce qui est sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette maison parce que déjà elle est censée célébrer un style qui a déjà presque disparu d'Alger. Elle est là dans le cadre de quand même d'un centenaire qui a été quelque chose d'assez incroyable. On a même des images filmées. Enfin, ça a été un budget monstrueux qui a été fait pour fêter ses 100 ans. Et elle est construite avec des débris de l'ancienne Casbah, une partie de l'ancienne Casbah du bas qui avait été détruite. Donc elle est refaite. C'est une fausse maison. Et c'est une maison sans habitants, c'est comme une maison témoin. mais qui témoigne de quoi. Et voilà, et il se trouve que elle est tellement emblématique que les gens qui y passent ont des révélations. Donc Camus, effectivement, je découvre ça, que il a même pas 20 ans et il écrit ce texte magnifique, La Maison Mauresque, hein, qu'on peut lire dans la
en 1933.
Volumes. Voilà, et dans une espèce de fièvre. Et c'est son premier texte vraiment, avec des guillemets, littéraire, lyrique. On pressent la prose de Noces, par exemple. Et tout de suite, il fait de cette maison une métaphore. Et on sent bien que, voilà, cette maison, elle est comme, enfin, pour moi aussi d'ailleurs, c'est comme une boîte noire, comme une machine à voyager dans le temps. C'est aussi quelque chose qui est fermé, qui est vide, qui est désert, qu'il faut peupler. Est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est fermée, quand Le Corbusier veut la voir, c'est assez amusant parce que lui il veut visiter la Casbah et mon grand-père l'a fait venir et explique à Le Corbusier tu peux pas entrer, enfin vous voyez parce qu'il est vénéré, vous pouvez pas entrer comme ça dans une maison de la Casbah, enfin c'est chez les gens, on n'entre pas comme ça, c'est quand même leur coin à eux. Et évidemment la seule maison qu'on peut visiter, la seule maison qui est ouverte paradoxalement est une maison close. Et voilà, et ça je raconte ça parce que c'est assez incroyable, on sent que pour Le Corbusier ça a été quelque chose de séminal, il a fait des dessins qui toute sa vie il a fait des dessins comme ça sur ses femmes allongées en référence à de la croix, etc. Voilà, donc c'est une maison, plus je fouillais, plus elle me livrait ses secrets. Et comme vous dites assez justement, effectivement le livre a un côté Casbah. Et il y a beaucoup de stratégies d'évitement pour ne pas aller finalement y aller quand même un petit peu à la fin vers la figure du père qui pourrait être le cœur du livre mais qui est déplacé à la fin comme un dernier geste.
C'est aussi un livre sur toute cette scène littéraire qui gravitait autour de l'éditeur Charlot et d'Albert Camus. Et plus particulièrement de Jean Sénat, quand je dis plus particulièrement, c'était tout bêtement parce que c'était un ami de votre père.
Alors, en fait, il y avait un milieu culturel à Alger qui est très fort. Il y a beaucoup de peintres, il y a beaucoup d'architectes, il y a beaucoup d'écrivains. C'est un petit monde quand même, donc on suppose, comme d'ailleurs un microcosme parisien aussi, tous ces gens se connaissaient, ils échangeaient aussi avec la capitale, et il y avait entre autres effectivement Jean Sénac, qui était complètement admiratif de Camus, qui a pu enfin le rencontrer. Ils ont une amitié littéraire et humaine très très forte, hein. Camus a beaucoup aidé même financièrement Sénac quand il venait à Paris. Après ils se sont brouillés au moment de ce qu'on appelle, toujours avec des guillemets bien sûr, les événements, hein. C'est comme ça qu'on appelait ça. Et voilà. Et donc, je sais que Sénac a rencontré mon père forcément à Alger, peut-être à la radio ou des choses comme ça. Et il y avait dans mon livre ce projet qui est naïf, c'est-à-dire comme je pensais que la poésie était passée de Sénac à mon père et que donc elle était après repassée jusqu'à moi. Et donc je cherchais à remonter le filon comme si on avait besoin finalement de trouver des passeurs. Alors qu'on peut tomber dans la poésie en ouvrant un livre, hein, on n'est pas obligé de rencontrer un poète. Mais il y avait cette idée-là d'essayer de voir à quel moment je sais pas si on peut utiliser le mot virus à la radio, mais avait été transmis comme ça d'un poète
qui lui-même le tenait d'ailleurs. Une maison comme on bâtit une œuvre littéraire, ça c'est en référence à votre grand-père architecte Claro. Et vous êtes posé ces questions, vous les posez dans votre livre, et c'est quoi la réponse? Quelle est votre réponse aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de réponse.
Déjà, c'est un livre que je ne pensais pas écrire. J'explique un peu dans juste à l'intérieur même du livre comment il a été déclenché. Et donc au début, je voulais juste dévoiler, déplier. Comme l'a dit Arnaud Bertina, déplier. Il y a un pli du temps comme ça à ouvrir et cette maison. Mais effectivement, ça m'a obligé à aller plus loin, à essayer de voir les zones d'ombre, etc. Et pourquoi? Alors après, c'est pas forcément un sujet passionnant, mais pourquoi moi, en tout cas, je ne m'étais jamais intéressé à ce passé qui est quand même assez prégnant, colossal, et que j'ai toujours refusé. Donc j'ai, en fait, c'est ça, c'est un peu une découverte. C'est pourquoi la poésie est passée et pas l'histoire. Et pourquoi peut-être maintenant je me retourne enfin vers ce passé.
Il y a des éléments de réponse, hein. Pourquoi ne pas parler de ce passé ou s'approprier ce passé? C'est parce que vous en avez souffert. Vous étiez, vous le petit-fils de pied noir, d'origine espagnole, vous étiez désigné comme un arabe, comme un bicou.
Voilà. Donc ça, c'est assez paradoxal quand vous êtes... En fait, j'avais toujours l'impression d'être l'autre de l'autre. C'est un peu... Donc voilà, bon, pour des petits blancs français, ils trouvaient que j'étais arabe. Comme moi, je voyais bien que mon père et mon grand-père étaient pieds noirs et qu'eux n'avaient pas forcément toujours non plus des discours très bienveillants sur les arabes. Il y avait une espèce de double bind comme ça qui était assez insupportable. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis passionné pour la littérature américaine, c'est-à-dire aller à un horizon, une ligne de fuite pour aller vers autre chose.
Tous les auteurs qui sont présents, c'est-à-dire aussi bien les écrivains, les peintres, les cinéastes, ils vont vivre des aventures autour de la Casbah ou autour de la maison indigène, la maison mauresque que votre grand-père Léon Claro a construit pour le centenaire de la présence française en Algérie. Et c'est vrai que quand ces parcours se retrouvent, se rencontrent, se répondent, qu'est-ce que vous dites, Claro? Vous dites que c'est le hasard, c'est le Mektoub, ou vous dites, ah, ça c'est mon architecture d'écrivain. Parce que c'est fou, par exemple, pour reprendre Camus et arriver jusqu'à l'adaptation de son film, ou partir de Camus jusqu'à Jean Sénac, quand vous rappelez que l'arabe de l'étranger, il va être tué d'une balle et après de quatre autres balles, Sénac va connaître la même chose à Alger dans les années 70, quand il va être assassiné. Un coup de couteau suivi de quatre autres coups de couteau.
Mais c'est vrai que quand on explore une période historique assez brève et dans un milieu social humain assez limité, au bout d'un moment, il y a des connexions qui se passent, qui se font, etc. Et le fait de fouiller va exaucer en quelque sorte des choses qui sont des coïncidences, du hasard, mais ça prend un sens forcément. Il y a des symboles qui se détachent. Il y a aussi des choses qu'on crée presque artificiellement, comme ça. Et des fois je me dis, ah, mais je suis étonné par ceci et cela, mais c'est normal. Ils sont dans la même ville, ils se croisent, ils se voient. Il n'y a pas de hasard, ou alors il n'y a que du hasard.
Otto et les 2 millions de titres lessivés.
Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il fallait l'empêcher de venir à la Casbah. La police continentale est si bien organisée.
Bonjour, messieurs.
Bonjour, patron. Je vous présente notre collègue de Paris, l'inspecteur Janvier.
Je sais. Enchanté.
Monsieur le commissaire.
Continuez, messieurs.
J'essayais d'expliquer à notre collègue les raisons de notre échec dans l'affaire de Pépé le Moko.
Il n'y a qu'une raison, et qui vous échappe à vous autres de Paris.
La Casbah.
Qu'est-ce que je disais?
Ben, j'irai y faire un tour demain, pour y voir clair.
Pour y voir clair, c'est amusant. Mais la Casbah, c'est un maquis. Venez voir, mon cher collègue.
Oui, on peut dire que Pépé tient le maquis. Vu un vol d'oiseau, le quartier d'Alger qu'on appelle la Casbah, profond comme une forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se chevauchent, s'enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers des gouffres sombres et puants. Des porches suintants, envahis de vermine et d'humidité. Des cafés obscurs, bondés à toute heure. Des rues désertes qui habitent le silence, des rues aux noms étranges.
Vous avez reconnu, Claro, que c'est un extrait du film de Julien Duvivier, Pépé le Moko. Il a quelque chose à voir avec votre récit qui vient de sortir chez Actes Sud, La Maison Indigène. C'est que, vous savez où je veux en venir, hein.
C'est-à-dire
que...
Non, mais je vous suis.
Bon, Pépé le Moko n'a pas été tourné à Alger.
Oui, ça je sais.
Et vous n'êtes pas allé à Alger pour écrire La Maison Indigène, c'est ça qui est fou. Pourquoi vous n'êtes pas allé à Alger pour écrire La Maison Indigène?
Je pense que ça fait partie c'est la prolongation de cette réticence par rapport à ce passé. Quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis effectivement posé la question. Je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille sur place. Et en fait, j'ai résisté parce que je voulais, que ça reste pour moi un livre de papier. Je veux dire que ce livre devenait la maison, et je compte plus sur l'avenir pour aller à Alger. Je voudrais que ça soit ce livre qui puisse déclencher, je sais pas, une invitation ou un voyage, des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut que la demande vienne de l'extérieur. C'est un blocage, hein, c'est une réticence complètement absurde. C'est pas très compliqué d'aller à Alger non plus, mais voilà, donc j'attends le bon moment, mais je pense qu'il fallait que le livre soit refermé pour que je puisse y aller bizarrement.
Et puis parlons du père, parce que en parlant de votre grand-père, vous êtes à la recherche de ce père, et là aussi, rendez-vous avec l'histoire et avec l'histoire de la guerre d'Algérie. Mmh. Votre père a quitté l'Algérie en 1951, c'est-à-dire avant la guerre. Mmh. Pourquoi il vous emmène voir à Paris la bataille d'Alger dans des situations plutôt dangereuses, puisque le film a été, c'est le moins que l'on puisse dire, très mal reçu par l'OAS et les nostalgiques de l'Algérie et française. Et on vous voit gamin dans une salle de cinéma qui venait d'être plastiquée avec des débris de verre autour de vous et votre père souriant, et ce sourire de ce père, parce que on voit bien qu'il est chaleureux avec vous et qui vous emmène voir ce film comme si c'était nécessaire pour un enfant.
Alors, on parlait de fiction, et bien je pense que c'est le seul chapitre du livre qui est une fiction. Il a un titre, mais on fait pas forcément attention au titre ni à ce qu'ils veulent dire, mais ça s'appelle La séance des rêves. Et en fait, c'est complètement fantasmatique. Je suis absolument pas allé au cinéma voir le film avec mon père, mais j'ai eu envie d'y aller dans le livre, vous voyez.
Donc il y a quelques moments comme ça où le romanesque l'emporte sur l'enquête familiale ou la quête du père dans ce livre, La maison indigène, Claro.
En fait, c'est ce que je disais, c'est comment alors mon père quitte l'Algérie en 51 pour faire son service militaire en Allemagne, et après il est débarqué, comme on dit, en France, et il ne retournera jamais en Algérie. Son seul lien avec l'Algérie sera quand son père, donc mon grand-père, revient en France, quand Sénac fait des nombreuses visites, et lui-même, bon, comme beaucoup de pieds noirs, ne m'en a jamais parlé, ou alors j'ai pas su l'entendre. Mais en tout cas, il a ramené de là-bas, en tout cas, c'est une passion littéraire et poétique qu'il a réussi à me transmettre, et donc c'est ça que je cherche.
Je ne sais pas l'arabe, rien de ses signes, de ses sens, de sa gorge. Je sais la coupure, le rejet, le déni. Je l'ai sais sur les doigts de la main qui se cache dans la poche quand il faut la tendre aux proches. Je connais mal le chemin de mémoire, ignore l'art du souvenir, me méfie des legs. Je sais en revanche l'oubli, son vertige, sa facilité, sa lâcheté protectrice, ses ruses salvatrices. Je sais aussi qui c'est qui se rappelle encore et pourquoi. Je sais peut-être pourquoi je n'ai pas voulu longtemps savoir. Je ne sais pas l'héritage, la transmission, mais je sais le poids de leurs ombres, la ténacité des choses tues. Je sais le racisme, les mots bougnoul et bico, parce qu'entendu, reçu et ne sachant qu'en faire, les rapportant à la maison, les posant aux pieds des parents, et la gêne avec en retour un autre mot, pied noir, qui me semblait alors l'équivalent de main sale, comme si le corps, hein, difficile à laver, maculait la nuit et guère mieux le jour. Claro, La maison indigène, édité chez Actes Sud.
يا السقيم الكشنا بقي مجور بين دوح الغصان خلقوا مولانا فيه السيسان والحكيم يشرح العقول يا مسعد هليلة على الرضا في بستان حفيل بين تحجيب سوارو في بساطر في عبهيج سلطنة تحيا بيه الدار.
On ne saura jamais si le grand maître du Chaabi, le regretté Amal Zahi qu'on vient d'écouter, est allé ou pas à la maison indigène, si proche de là où il habitait. Mais Claro, vous savez que Jean Nouvel est allé, a failli s'installer dans la maison construite par votre grand-père quand les autorités algériennes lui ont demandé de venir voir comment il pouvait réhabiliter la Casbah, ce qui a provoqué bien sûr un débat houleux en Algérie.
Oui, j'ai appris ça, qu'il avait installé ses bureaux un temps là-bas.
Ah, il avait carrément installé ses bureaux.
Oui, il avait installé ses bureaux. Mais c'est vrai que l'Algérie, voilà, il est traversé par des architectes. On a Corbusier, Pouillon, maintenant Nouvel. Chacun essaye. Bon, Corbusier n'a rien bâti.
Vous mettez pas votre grand-père en tête de liste?
Il est un peu, c'est le passé hein, quand même. Même s'il est, il était assez fanatique de Le Corbusier, il était quand même un grand admirateur de Auguste Perret. Le foyer civique qu'il a construit est quand même quelque chose d'assez monumental, voilà. Mais non, les architectes aiment bien délirer sur la ville blanche. On voit les projets de Le Corbusier pour Alger sont complètement fous, une espèce d'autoroute qui court sur des immeubles sur tout le front de mer. Pouillon, bon bah on sait aussi ce qui s'est passé et voilà, et nouvelle qui visiblement ne fera peut-être pas voilà, et, la Casbah peut-elle changer de visage, c'est quelque chose je pense c'est un peu au peuple algérien de le décider quand même.
Une fois que vous avez écrit ce récit donc en hommage à votre grand-père architecte, à la recherche de votre père pour donner un sens aussi à ce qui est transmis, ce qui ne l'est pas, quand on sort de ce livre, de ce récit, Claro, comment on se sent ?
On se sent comme quand on a réussi à fabriquer une maison avec des matériaux qui appartenaient à d'autres gens. De même que la maison indigène a été construite avec les restes d'une ancienne casbah. Moi, j'ai eu l'impression de pour une fois faire un livre non pas avec mon imaginaire, comme c'est le cas en général. Mais voilà, avec tous ces matériaux qu'on m'a transmis, que je ne voyais pas, je ne pensais pas qu'on pouvait bâtir avec.
Vous les avez réhabilités, ces matériaux ?
Bon, c'est pas une entreprise d'assainissement non plus, mais en tout cas, c'est une façon de revisiter une maison. Est-ce qu'on peut encore l'habiter quand elle a disparu quelque part ?
Bon, vous êtes prêt à retourner à la Casbah d'Alger ? À découvrir la Casbah d'Alger ?
Oui, je pense que je suis prêt maintenant.
La maison indigène de Claro, c'est édité chez Actes Sud. Merci d'être venu ce matin.
Merci.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Si vous voulez savoir à quoi ressemble la maison indigène construite par le grand-père de mon invité, Léon Claro, donc, et ben rendez-vous à la page de l'émission Le Réveil Culturel sur franceculture.fr. On se retrouve demain à la même heure.